RCF. Bienvenue à toutes et à tous en direct ou en podcast dans ce 15e numéro de la 7e saison de Côté Ouvert, votre rendez-vous consacré à l'actualité du rugby à 15 sur RCF Pays d'Aude avec la complicité de RCF Pays Tarnais et également diffusé sur RCF Occitanie en DAB+, rendez-vous qui vous est toujours proposé en partenariat avec le site Vibré Rugby. Aujourd'hui, dans notre multiplex entre l'Aude, le Tarn et le Piémont des Alpes, ils ont une fois de plus répondu à l'appel. Outre votre serviteur, j'ai le plaisir d'accueillir au pied des Alpes Monsieur Fred Protin. Salut Fred.
Bonjour Patrick et bonjour à tout le monde.
Un grand plaisir aussi, c'est celui de retrouver Renaud Sorel du côté d'Albi. Bonjour Renaud.
Bonjour à toutes et à tous.
Et puis aujourd'hui, un invité en la personne de Nicolas Nadeau, que nous sommes ravis d'accueillir sur cette antenne. Bonjour Nicolas.
Bonjour à tous.
Et enfin, pour mettre en onde de cette émission, GG au doigt de fée, vous le connaissez tous, c'est Jérôme Bozon qui sera aux manettes.
Bonjour Patrick et bonjour à tout le monde.
Au menu aujourd'hui à la table de Côté Ouvert, on va commencer par un focus sur Grenoble, actuel 3e au classement de Pro D2. Et puis, actualité oblige, on ira faire un petit tour du côté du tournoi Destination 2023. Allez, c'est parti d'abord pour un focus sur la saison du FCG de Grenoble. Je vais commencer tout simplement, pour les gens qui n'auraient pas le bon goût de connaître Nicolas Nadeau, par quelques questions très basiques. Nico, tu vas être obligé de décliner ton identité et nous rappeler un petit peu tes fonctions actuelles et surtout ton parcours dans le monde du rugby.
Eh bien, rebonjour à tous. Nicolas Nadeau, je suis un ancien joueur professionnel. J'ai joué 13 saisons. Je suis passé par Clermont-Ferrand. J'ai été formé au Paris Université Club, passé par Clermont-Ferrand, Castres, Narbonne. J'ai fini ma carrière pro à Narbonne et commencé ma carrière d'entraîneur à Carcassonne avant de la finir en tant qu'amateur. J'ai eu un titre de champion de France avec l'US Carcassonne en tant que joueur pour basculer ensuite entraîneur pro. Et là, j'ai eu un parcours entre Carcassonne, Tarbes, où je suis revenu à Carcassonne un petit peu. Je suis allé me promener du côté de Biarritz, puis ensuite j'ai atterri depuis la saison dernière à Grenoble.
Joli parcours, très varié, mon cher Nicolas. On va parler forcément de la saison du FCG. Et moi, quand je regarde les stats, je me dis, côté Grenoble, ça va plutôt bien. 22 matchs disputés, puisque vous en avez un encore en retard à disputer. Je vois 14 victoires, 3 matchs nuls, 5 défaites, c'est-à-dire 64 points au classement. Quelque chose que tu dois regarder de près, le Brita Bonus, je vois un plus 19. Ça, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Et quand même, une dernière défaite qui remonte au mois de décembre 2022, à la journée 14. Et surtout, donc, cette équipe, elle est invaincue en 2023. Donc, beau palmarès. Et Fred, je crois que tu avais une première question à poser à notre invité.
Oui, je voulais demander à Nicolas, effectivement, on voit bien qu'il y a une dynamique qui est claire depuis décembre, on va dire. Mais moi, je dirais une dynamique depuis surtout le match un peu loupé à domicile contre Carcassonne, où là, on voit un changement radical dans le jeu, dans les intentions de jeu, beaucoup plus de jeu à la main, beaucoup plus de possession, moins de dépossession, justement. Et alors, est-ce que ça correspond à un changement de philosophie dans votre jeu qui vous a fait basculer vers justement cette dynamique actuelle, ou est-ce qu'elle était déjà engagée, à ton avis, depuis plusieurs matchs?
La dynamique offensive, elle est engagée depuis quelques semaines. En effet, le match de Carcassonne est un match qui a été un peu difficile pour nous parce qu'ils nous ont bien bloqués sur leur stratégie de dépossession et ne pas vouloir jouer et nous prendre sur la conquête. Et je pense que ce soir-là a fait réagir les joueurs, mais c'est aussi tout ce qui avait été mis en amont, parce qu'on avait fait un constat aux joueurs aussi en fin de bloc avant les vacances de Noël, où le constat était simple de dire qu'on était, je crois, 13e à 12e attaque et qu'on n'était pas une bonne mêlée, qu'on n'était pas une bonne touche. Et donc, dans tous ces constats, on a dit qu'il fallait changer quelque chose. On a changé quelque chose en revenant début janvier. Et c'est tout ce travail qui a été fait pendant 2-3 semaines. Et donc, le moment où on reçoit Carcassonne, c'est le moment où les effets, où les choses sont en train de se produire, où il y a quelque chose qui est en train de travailler. La chance qu'on a eue, c'est Aurillac. Ne pas jouer Aurillac nous a permis de travailler un peu plus longtemps, nous a permis de poser d'autres choses et de surtout conforter ce qu'on avait à consolider après Carcassonne. Et que on n'avait pas été bon dans le jeu direct, on n'avait pas été bon dans les collisions, on n'avait pas été bon sur le jeu au sol. Enfin, il y avait plein d'éléments qui nous disaient tout ce qu'on est en train de construire, on va vers dans la bonne voie et ça va s'ouvrir très rapidement. Et ça s'est conforté par la suite.
Renaud.
Oui, ben justement, tu parles du travail que vous avez mis en place. Toi, tu es arrivé depuis, on va dire que tu es à presque deux saisons. Est-ce que tu peux nous donner un peu les points forts de ton équipe et les points qui vous restent à travailler justement par rapport à cette dynamique que tu as mis en place?
Alors là, les gros points forts de cette équipe, et c'est sans doute aussi un de ses points faibles, c'est que c'est une équipe qui est très joueuse. C'est une équipe qu'il a fallu canaliser, à qui il a fallu apprendre la gestion des matchs. L'année dernière, on avait perdu à Provence. On fait match nul à Provence encore cette année. On avait vraiment appris de la saison dernière de trop jouer peut nous tuer. Mais il faut pas perdre cet état d'esprit de il faut quand même consolider, il faut quand même avoir des bonnes sorties de camp et il faut garder cet état d'esprit joueur. Et ça, c'est un état d'esprit qui, ici, est très marqué, très tourné vers le jeu, très tourné vers l'offensive et très tourné sur la construction de notre jeu, la structure. Ça, c'est très, très marquant. Mais ça fait partie aussi de nos défauts. Nos points d'amélioration sont la conquête. On reste aujourd'hui une des pires mêlées du championnat. Elle est en phase de progression depuis deux blocs. Elle est en train d'évoluer, en train de bien progresser. On est moins pénalisé. Et c'est aussi ça qui fait que on est en train de basculer dans un effet positif grâce à la conquête. On a nos touches qui sont de mieux en mieux. On a nos mêlées où on est de moins en moins pénalisé, où on est moins pris par des petits détails sur des rentrées en mêlée avant que l'arbitre annonce les commandements. On avait pris un nombre de pénalités bêtes. C'était une indiscipline qui nous coûtait très cher la saison dernière et qu'on a réglé vraiment cette année.
Est-ce que tu considères, Nicolas, que le traumatisme, entre guillemets, de la saison dernière, où ça a été quand même très compliqué, il est maintenant évacué pour ton groupe, parce que tu as quand même une bonne partie du groupe qui a vécu la saison compliquée 2021-2022?
J'espère très honnêtement qu'il n'est pas évacué. Ah. J'espère qu'on le garde très ancré en nous et que tous les jours, les joueurs se rappellent de la saison de catastrophe qu'on a vécue, pour ne pas employer des termes vraiment cyniques. C'est vraiment une... Ils l'ont vraiment en eux, quoi. C'est vrai, on a vraiment préparé le début de saison. On est revenu en juillet tous ensemble, travailler ensemble. Qu'est-ce qu'on devait changer? Qu'est-ce qu'on devait améliorer? En ayant cette toujours ça en tête. J'espère que malgré ces victoires, et je pense que c'est aussi ça notre force aujourd'hui, je pense que la saison catastrophique nous permet de construire, de savoir gérer les matchs, de savoir bien manager les temps forts, les temps faibles, de savoir finir les matchs, de les tenir, parce que l'année dernière, c'était un autre concept, tenir les matchs, on faisait des 20 dernières minutes catastrophiques. Et là, cette année, on a changé cette dynamique, et ça, c'est vraiment top.
Alors, il reste 8 matchs à jouer, c'est la suite de la saison, parce que là, on vient de faire une sorte de bilan, mais c'est, gouverner, c'est prévoir, monsieur Nadeau. Donc, on va se projeter aussi, Fred, sur peut-être les 8 derniers matchs à jouer.
Oui, ben effectivement, là, tu fais un peu le bilan de l'année passée, mais...
l'année en cours.
Et c'est bien que vous ayez maintenu la pression pour que les résultats soient maintenus. Et avec l'année passée, moi, je m'en souviens, en tout cas, je ne suis pas le seul, 7 défaites à domicile, cette année, une seule, et heureusement. Et donc, il reste 8 matchs, on pense à l'objectif. L'objectif affiché, c'est le top 6. Mais est-ce que, comme le dit Antonin Berruyer dans le middle de lundi, est-ce que vous ne rêvez pas un petit peu plus? Un petit peu plus loin.
Il faut garder ce qu'on a mal vécu l'année dernière. Il faut aussi être conscient de là où on est aujourd'hui, mais il ne faut pas non plus se brûler les ailes. Il faut rester humble. On a 2 déplacements à faire. On reçoit des équipes du haut du tableau. On est dans une dynamique qui est extrêmement positive, mais qui peut aussi, du jour au lendemain, s'écrouler. On a les 2 déplacements qui vont être cruciaux. Nous, on pense qu'on est dans un moment... Dans le virage de la saison sur Aurillac et soyons Angoulême, c'est les 2 déplacements qui nous arrivent là maintenant. Si on gagne ces 2 matchs, si on est dans une dynamique positive à la sortie de ces 2 matchs, on abordera Oyonnax détendu, contrairement à la saison dernière, on les avait reçus sous tension, on était dans une période de construction. Là, on les recevra on n'aura rien à perdre, on aura tout à gagner contre Oyonnax. On perd, on gagne, pas grave, on sera dans une bonne dynamique. On aura encore le temps d'aller chercher mieux que les 6 places, de faire mieux et de peut-être atteindre ce que Antonin a un peu déclaré, un peu hâtivement peut-être, mais en tout cas, c'est bien que les joueurs se mettent dans ces, soient compétiteurs et qu'ils se mettent dans cette dynamique et cette volonté d'aller chercher mieux. Et surtout, c'est ce qu'on leur dit tous les jours, c'est ce que Fabien Gégenbacher, en tant que manager, leur dit tous les jours. Quand on a l'occasion de prendre quelque chose, il faut le prendre, il ne faut pas laisser passer sa chance. C'est le moment.
Ouais, alors justement, si on donne un coup d'œil au, au classement, Nicolas, on se rend compte, bon, il y a Oyo qui écrase tout le monde, hein, c'est une grosse machine, on en parlait off avant le début de l'émission, c'est aussi la continuité d'un travail qui a été établi sur, sur plusieurs saisons. Après, ça reste ouvert en gros entre la 8e et la, la 2e place. Et vous, vous êtes en position à la fois de chasseur pour essayer, pourquoi pas, d'accrocher la 2e place avec Mont-de-Marsan, et puis en même temps de chasser, parce que derrière, ça pédale pour essayer de remonter. Donc comment le groupe le vit, j'imagine, c'est stimulant de se savoir si près comme ça de, d'une demi-finale, pourquoi pas, à domicile, et puis en même temps, sachant qu'il y a la pression, donc on ne peut pas se relâcher.
Ce qui est très stimulant, c'est de revenir toujours après des victoires et que les entraînements sont toujours plus faciles. On a vécu une saison dernière avec ces 7 défaites à domicile. On a vécu une saison où c'était très difficile. Les dynamiques d'entraînement, aller à l'entraînement, les mecs allaient à reculons à l'entraînement. C'était difficile. C'était pas le fait de s'entraîner ensemble, d'être ensemble. C'était la morosité permanente. Aujourd'hui, on revient avec la banane, on revient avec un état d'esprit tout à fait différent. Et on n'est pas dans une dynamique de regarder ce qui se passe derrière. On est dans une dynamique de regarder ce qu'on fait nous. Et on est toujours dans la phase de, et c'est la demande qu'ont eu les joueurs, sur arrêtons de regarder ce que font les autres, arrêtons de vouloir copier ce que font les autres, et soyons dans une dynamique de qu'est-ce qu'on peut améliorer nous tous les jours. Et là, on est vraiment dans cette dynamique de regarder. Et donc, j'espère qu'on va nous chasser longtemps, ça voudra dire qu'on sera toujours devant, et ça, c'est, et ça, ça reste, et ça, si on est chassé par les autres, c'est qu'on ne sera pas loin de cette fameuse 2e place que Antonin a évoquée.
Pardon.
Ouais, justement, moi, je me suis permis de regarder le calendrier. Alors, vous avez enchaîné 6 matchs d'affilée parce que vous avez ce fameux match en retard à Aurillac. Derrière, tu disais, c'était focus sur Aurillac et Soyons-Angoulême. Bon, on ne va pas considérer la réception d'Oyonnax comme un concurrent direct parce que c'est un être à part dans cette Pro D2, fait, du moins à mes yeux. Mais après, Mont-de-Marsan, Nevers, Biarritz, Vannes, c'est-à-dire 4 matchs contre... On peut, enfin, je pense que tu ne vas pas nous dire le contraire, 4 concurrents directs.
Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça, mais c'est aussi les 2 matchs qui arrivent là qui vont nous guider pour la suite. C'est est-ce qu'on sera encore dans la course même si ça ne nous condamne pas, mais pour garder, pour être au Brita bonus anglais, comme tu l'as évoqué, Patrick, il faut gagner ces matchs-là pour être encore en course avec eux. Après, il ne faut pas oublier que on a encore notre club qui a fait la démarche d'essayer de récupérer nos 3 points. Si on récupère, si on gagne les 2 matchs-là qui arrivent et nos 3 points, on sera dans une belle dynamique pour les recevoir, toutes ces équipes-là. Recevoir Mont-de-Marsan dans des conditions, c'est en gros, c'est être dans la position de l'année dernière quand Mont-de-Marsan nous a reçus. Ils n'étaient pas tranquilles, mais ils étaient dans une position de 2e en place ou pas trop bousculés par les autres et ils pouvaient gérer leur match. Et c'est ça qu'on aimerait avoir aujourd'hui.
Fred, pour conclure, ce focus sur le FCG, dernière
question.
Justement,
tu en parles de ces 2 matchs-là très très importants, les 2 déplacements, et tu t'attends à quoi donc à Aurillac, où on sait pertinemment qu'à Aurillac, c'est la guerre des tranchées, c'est la guerre du combat devant, au sol, mêlé, touche. Donc là, vous allez passer au révélateur du combat, si je puis dire.
Ouais, on passe au révélateur du combat. En plus, on est dans une situation un peu particulière. On a perdu 2 ouvreurs, Romain Barthélémy, Thomas Fortunel. On a perdu Julien Farnoux. Donc, on a une ligne de 3 quarts qu'on doit recomposer, qu'on doit reconstruire. Et malgré tout, et c'est là qu'on va voir si notre équipe a grandi, si on a bien travaillé depuis 1 an et demi et que les joueurs qui vont rentrer vont apporter le plus qu'il faut. Mais pour dire, c'est que la grosse difficulté d'Aurillac, c'est toujours de se dire, on a l'impression qu'on peut les prendre de partout, qu'on peut les bousculer de partout, mais à l'arrivée, tu repars toujours avec 30 points. Donc aujourd'hui, c'est la dynamique de combat qu'on a su mettre dans des endroits qui sont vraiment très durs. Béziers, il y a la semaine dernière, c'était extrêmement dur. C'est les tranchées, Béziers. Ouais. C'est Carcassonne, qui est une équipe très, très dure à prendre sur la conquête. C'est ces éléments-là, c'est ces 2 équipes-là qu'il faut mettre, en gros, ensemble pour répondre à ce qu'Aurillac va nous donner. Si on met ces éléments-là en premier, on aura une belle, belle démarche de bien enclencher pour essayer de créer quelque chose. Mais si on met le jeu avant la conquête, avant le combat, on va en prendre 30.
Eh ben c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et puis nous, on va maintenant parler tournoi destination, mes amis. Allez, petit retour d'abord sur la troisième journée du tournoi qui s'est joué maintenant il y a presque une semaine et demie, presque deux semaines. Et puis on parlera aussi du programme de la quatrième journée qui nous attend ce week-end. Je vous rappelle que les Français sont venus sans liaison mal à propos, sont venus à bout de l'Écosse 32-21, que l'Italie a subi les foudres de l'Irlande 20-34, mais là aussi on en parlait off avec Nicolas. Ces Italiens quand même, ils ont fait énormément de progrès en très peu de temps. Et les Gallois, là c'est la déliquescence galloise, ils ont perdu chez eux face à l'Angleterre 20-10, donc est très inquiétant pour ces Diables Rouges du Pays de Galles. Je vous rappelle que ce week-end, donc, ça joue sur les pelouses du Six Nations, samedi 15h15 Italie-Galles, l'Angleterre recevra la France à 17h45, le crunch les amis, et puis le lendemain un Écosse-Irlande très intéressant. Donc rapidement pour nos auditeurs qui auraient aussi un petit peu loupé le coche, je rappelle le classement actuellement du tournoi. Caracol en tête, l'Irlande avec 15 points, suivi par trois équipes à 10 points, l'Écosse, l'Angleterre, la France, l'Italie un petit point et les Gallois qui sont toujours Fanny dans ce tournoi. Ah, j'ai vu que Nicolas était prêt à entonner l'hymne national quand le jingle est parti. Messieurs, on va essayer de discuter un petit peu tous les quatre, puisqu'on est bien là, même si Jérôme veut intervenir, c'est avec plaisir. France qui s'impose finalement avec le bonus, on l'a dit tout à l'heure, face aux Écossais. Tiens, Nico, je vais commencer avec toi. Le scénario était un peu curieux, non, avec ces deux cartons rouges, un pour les Écossais, puis un pour les Français, puis des Écossais qui semblaient au fond du seau, qui sont revenus à la partie. Ça a été un beau match à suspense.
Oui, ça, on a senti que ça avait déstabilisé les deux équipes, qu'elles avaient mis du temps avant de se remettre dans le match, parce qu'on voit l'entame de match de l'équipe de France qui est assez magnifique. On leur avait reproché un peu sur le match de l'Italie de ne pas avoir tenu le ballon, de ne pas avoir mis ce qu'il faut. Ils ont mis 10 premières minutes avec une intensité terrible, avec un rythme terrible. Et puis là, ce carton rouge a délité complètement notre équipe. Et j'ai adoré la stratégie écossaise qui est à la fois un peu le contre de ce que propose l'équipe de France dans la dépossession. Elle a été capable sur ses lancements d'attaquer dans une zone très proche des zones de conquête pour ensuite enfermer notre arrière, jouer dans le dos au pied de nos arrières et les enfermer. Et ça a été un élément que l'équipe de France a eu du mal à gérer. Et ça a donné, à mon sens, une piste pour l'équipe d'Angleterre qui, elle, est complètement dans la dépossession. Et là, je crois que l'Angleterre a une clé. Ils ont eu une clé contre l'équipe de France et donc je vais être très curieux ce week-end de voir si l'équipe de France a réglé cette problématique et si l'équipe d'Angleterre est capable d'enfoncer encore plus l'équipe de France dans ce domaine-là.
Renaud, Nico évoquait les cartons rouges et notamment celui de Mohamed Awas. Pour toi, c'est une faute impardonnable à ce niveau-là, de ce coup de tête près de la ligne, ou c'est juste qu'il était en rupture, il n'a pas pu contrôler son geste comme l'a protégé son manager national?
Écoute, oui et non, monsieur le juge.
Non, je suis pas juge.
Oui, alors je pense qu'il a pour lui d'avoir un passif en équipe de France et malheureusement contre l'équipe d'Écosse avec ce marron devant les caméras du monde entier qui a fait qu'il était malheureusement sur la discipline attendu. Il était un petit peu attendu aussi quant à sa tenue à mêlée et quant à sa forme. Donc je pense que le garçon avait beaucoup de pression. Après, c'est une faute, je pense que Nicolas corroborera mes propos. On la voit malheureusement beaucoup sur les terrains. Alors, est-ce que c'est volontaire pour détruire le mec? Est-ce que c'est dans l'élan, etc.? Après, le très très haut niveau ne laisse plus la part à l'imperfection. Donc, je pense qu'un technicien comme Nicolas va te dire non, à ce niveau-là, tu dois te retenir et tu dois tout maîtriser pour ne pas, comme il l'a dit Nicolas, mettre après en péril le plan de jeu qui avait été mis en place.
Ouais, Nicolas, manque de maîtrise.
Évidemment, c'est un gros manque de maîtrise. On a la chance en Pro D2, on n'a pas tous les plans qu'ont le top 14 et le niveau international. Donc encore plus à ce niveau-là, top 14 et niveau international, il y a 200 caméras autour des terrains, il va être obligatoirement vu. Le monde entier l'a vu, il va être scruté, ça va être regardé sous tous ses angles. En Pro D2, des fois, on arrive encore à se cacher, la caméra n'est pas bien placée, voilà. On a encore un petit peu cette chance. Mais bon, là, sincèrement, pour moi, c'est une faute professionnelle, il n'aurait pas dû, et malheureusement pour lui, suite à son retour, il avait un retour sans doute mérité, peut-être avec ce qu'il faisait avec Montpellier, sans doute, mais quand tu reviens en équipe de France, que tu vas sans doute te jouer une place pour la Coupe du Monde, tu as le droit d'être discipliné.
Ouais, je pense que c'est ça, moi. Juste pour finir là-dessus, je crois que la place d'Awas en équipe de France, avant qu'on passe à autre chose, c'est peut-être jouer sur ce carton rouge, malheureusement pour lui.
Ouais, parlons d'autre chose, parlons justement des blessures. Alors, vous avez vu peut-être la presse après le match, il y a eu une vague polémique avec le papa d'Anthony Jolonge sur la gestion de la blessure. On n'aurait pas dû le faire rentrer. Bon, est-ce que c'est de l'ajoutation de journaliste? Peut-être un petit peu. Mais plus généralement, moi, j'aimerais vous interpeller, messieurs, sur la gestion des blessures. Il nous reste 5 minutes, donc on a encore 4 questions, donc il faut être assez rapide. Fred, la gestion des blessures, c'est quand même quelque chose de compliqué, savoir si on fait ou pas rentrer un gars sur un terrain. C'est toujours problématique.
Ouais, mais si tu fais rentrer un gars sur un terrain, c'est pour qu'il joue, c'est pour qu'il se donne à fond. S'il se donne à 3/4, à 75%, tu mets l'équipe en danger. Donc, malheureusement, et Nicolas, je pense qu'il en connaît quelque chose avec 4 blessés lors du dernier match, la blessure fait partie du rugby et du jeu. Donc, soit tu joues et tu donnes tout et tu peux t'exposer à une blessure, comme tu peux aussi faire un très gros match sans être blessé. Alors, si on commence à se poser la question, est-ce qu'on va jouer, est-ce qu'on va pas jouer, là, c'est plus du rugby. Bon, c'est vrai qu'il y a les chances, la Coupe du Monde. C'est évident que tous les joueurs ont envie d'aller participer à cette Coupe du Monde, mais on peut pas jouer avec le frein à main au rugby, c'est pas possible.
Nico, la gestion des blessés, même à votre niveau, c'est quand même quelque chose de compliqué. C'est-à-dire qu'un gars qui est touché, est-ce qu'on le maintient sur le terrain? Est-ce qu'on le sort? C'est toujours, j'imagine, surtout qu'il faut prendre la décision à la minute, là, quand vous êtes sur le banc, avec tes collègues. Là, c'est pas quelque chose qui est longuement réfléchi. Donc, il faut être dans l'action immédiate.
Après, il y a la gestion de la commotion, ce qu'il a fait juste avant. Ouais. Et après, il y a la gestion de son genou, puisqu'il se blesse sur le plaquage.
Ouais, ouais.
Après, on peut. Je pense pas que le papa d'Anthony Jolonge se soit plaint quand il a fini meilleur joueur et qu'il a plaqué autant que en Irlande. Il s'en est pas plaint. Il était content que son fils soit mis en avant et pourtant c'est la même résultante. Quand on est sur le bord du terrain et qu'on a un joueur de cette qualité qui est en plus dans l'engagement, qui met aucun frein dans son engagement, c'est difficile à un moment de dire, mon garçon, il faut que tu stoppes de plaquer aussi fort, il faut que tu t'arrêtes. Il est en équipe de France, il représente le maillot français, il faut qu'il donne le meilleur de lui-même. On a la chance qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Malheureusement pour lui, ça va être une course pour revenir et participer, postuler pour la suite.
Alors justement, la suite, il y participera pas, la suite immédiate, puisque c'est le crunch contre les Anglais. Est-ce que ce crunch, il nous reste 3 minutes, me dit Jérôme, très consciencieux de la gestion du temps, est-ce que ce crunch, il a la même saveur, puisque les Anglais sont un petit peu palichons là, depuis 2 saisons? Renaud, est-ce qu'il a toujours la même saveur, le crunch?
J'ai envie de dire, il y a le tournoi des 6 nations et il y a France-Angleterre ou Angleterre-France. Donc voilà, il y a le crunch. L'Angleterre a beaucoup à se faire pardonner devant son public et à prouver, et notamment Borthwick qui a repris les rênes de cette équipe samedi en fin d'après-midi. Elle a gagné contre le pays de Galles, mais de façon très poussive. Et vraiment, avant d'aller affronter l'Irlande, elle sauvera son tournoi si elle fait un bon match, si elle gagne, contre la France, quelle que soit la manière. Et a priori, ça va, d'après Borthwick, beaucoup jouer devant. Et comme le dit Nicolas, sur aussi la dépossession.
Ouais, donc, Fred, des raisons donc d'être inquiet pour ce match, parce que ils vont rien lâcher, les Anglais, chez eux, face à leur meilleur ennemi.
Oui, il y aura de toute façon, ils vont rien lâcher, mais les deux équipes, c'est normal. C'est voilà, comme dit Renaud, il y a le tournoi et il y a le crunch. Donc les deux veulent gagner, c'est évident. Et si l'Angleterre gagne, l'Angleterre aura réussi son tournoi. Si la France gagne, eh bien, elle aura réussi son tournoi. Et c'est une rivalité que l'on connaît depuis très longtemps, mais c'est en même temps une rivalité très intéressante. Sur le plan rugbystique, on voit des matchs des fois extraordinaires. Rappelez-vous, il y a 2 ans, il y avait eu un score de malade. Il y avait eu 50 points là, d'un côté, 30 de l'autre. Bon, on peut espérer un très, très beau match. J'espère que la presse, avant match, ne fera pas les siennes en publiant des articles un peu louches sur l'équipe de France.
Nico, je vais te demander de nous proposer un petit peu tes talents de voyant extra-lucide. Tu vois quoi, toi, comme genre de match? Comme disait Renaud, un match où ça va jouer d'abord devant et d'abord sur la conquête.
Après, les deux équipes nous ont laissé un peu sur notre faim depuis le début du tournoi. Les Anglais, comme l'évoque Renaud, sur l'arrivée de World Borthwick, on attendait bien mieux. Maintenant, les deux équipes vont se rencontrer. C'est une confrontation de dépossession. il n'y en a aucune des deux qui veut tenir le ballon, donc ça va faire, ça va pas faire un match. Moi, à mon sens, ça ne va pas être un grand match, il ne va pas y avoir un gros score. Mais quand je prévois la météo pour aller à Carcassonne, j'annonce le vent, il fait beau temps. Quand je vais à Albi, j'annonce la pluie, il fait beau temps. Enfin, bon, donc, dans les prévisions, en général, je ne suis pas très, très bon. Mais voilà, bon, je vais me lancer en disant que l'Angleterre va gagner et que ça va nous poser beaucoup de questions pour la suite.
Alors moi, justement, puisque tu nous fais ton premier pronostic, toi, tu vois une victoire de l'Angleterre sur ce match.
Oui.
Alors, Fred, est-ce que tu es obligé, toi, par engagement, tu es grenoblois, donc tu es obligé de suivre ton manager, sinon tu vas avoir des problèmes après.
Non, je n'ai aucun problème. Non, mais moi, je pense que les Français, ce n'est pas un objectif, ce match, même s'ils aimeraient gagner. Bah, si, c'est un objectif quelque part, mais je pense que l'Angleterre va gagner ric-rac.
L'Angleterre a gagné ric-rac. Ok. Monsieur Sorel, je vous vois frétiller derrière votre...
Non, ouais, comme Nicolas, 9 à 8, 10 à 9, pourri, bien dégueulasse, avec peut-être la pénalité dont on va parler pendant 15 jours derrière, mais je vois l'Angleterre, malheureusement, elle n'a pas trop d'autre choix que de gagner ce match si elle veut être pépère, s'acheter la tranquillité avant la Coupe du Monde. Et pour juste rebondir sur ce que dit Nicolas, par contre, si tu perds en Angleterre, je pense que là, ça va beaucoup jaser en France. Exactement.
Monsieur Bouzon, vous êtes obligé de vous prononcer.
Alors, c'est une excellente question. Je ne vais pas y répondre. Merci, Monsieur Fascina, parce que je vais plutôt répondre en disant que je pense que Ange Capuzzo va faire un grand match face donc au Pays de Galles et qu'ils vont largement l'emporter. Et pour France-Angleterre...
Mince.
Bon, écoutez, moi en tout cas, avant de nous quitter, de souhaiter un bon appétit à nos auditeurs, mais moi je vais vous donner mon pronom. Moi je vois les Bleus l'emporter. Petit score, pareil, un match comme disait Renaud, peut-être fermé, comme disait Nico, pareil. Mais moi je vois les Bleus, allez, j'y crois, les Bleus s'imposeront. Écoutez, on vérifie ça ce week-end parce qu'on sera tous derrière nos téléviseurs. Merci à notre invité, merci à Nicolas d'avoir accepté gentiment de nous accompagner sur cette émission. Tu sais très bien que la porte des studios t'est grande ouverte à chaque fois que tu as envie de nous rejoindre. Merci Fred, merci Renaud. Jérôme,
merci à vous.
Un bon appétit.
Merci à
il faudra tous. Que tu revoies tes fiches bon Middle juste avant l'émission. Salut à tous et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour nos prochaines aventures. Ciao à tous.